13h31.
RFI. RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, des dysfonctionnements nombreux au sein de l'Assemblée nationale de RDC à Kinshasa. C'est la conclusion d'une étude qui s'est penchée sur la législature 2019-2023, étude signée du GIEC et de l'Institut Ebouteli. On y revient dans quelques instants. Une victoire diplomatique pour la Turquie, un accord annoncé mercredi entre l'Éthiopie et la Somalie. Mais si les grandes lignes ont été présentées, il restera manifestement pas mal de points à régler encore entre les deux voisins. De nouvelles accusations contre le géant français Total Energy, portées par plusieurs ONG. Elles visent ses activités pétrolières en Ouganda. Sous le gravier, les larmes, un film émouvant qui met en lumière la problématique de la sécheresse à Madagascar, récompensé hier par le prix Hip-Hop Plus 2024 dont RFI est partenaire. La grande île, Madagascar, par ailleurs gangrénée par le fléau de la surpopulation carcérale, ce sera notre dossier. Un mécène privé s'est mobilisé pour offrir une semaine d'activité à quelques 5000 détenus d'une prison d'Antananarive. Et puis, la poésie de l'artiste franco-rwandais Gaël Faye, avec une lecture musicale hier de son roman Jacaranda, organisé à Kigali au mémorial de Guy Sozi, sur les traces du génocide et de ses parents. De nombreux dysfonctionnements mis en lumière dans une étude qui est donc pour le moins critique en RDC. Une étude signée par le GIEC, le groupe d'études sur le Congo et l'Institut Ebouteli. Ils se sont penchés, je vous le disais, sur la précédente législature congolaise à l'Assemblée nationale, celle de 2019 à 2023. Une période émaillée par de nombreuses lacunes visiblement, Patient Ligaudy.
Selon le rapport de Boutelli, la majorité des initiatives de contrôle déposées par les députés n'ont jamais été examinées. Entre 2020 et 2023, sur les 177 moyens de contrôle documentés par le baromètre législatif de Boutelli, plus de 93 sont restés lettres mortes. Un exemple frappant, lors de la session de mars 2023, sur 29 moyens de contrôle déposés, une seule interpellation a été débattue en séance plénière selon le rapport. Les chercheurs notent également une gestion opaque du livre bleu. Ces registres censés assurer la traçabilité de projets et propositions une loi mal tenue, mise à jour de manière irrégulière et rarement accessible au public. Ce document pourtant central illustre les failles du processus législatif. Le rôle du bureau d'études de l'Assemblée nationale est aussi critiqué. Cet organe technique chargé d'évaluer la conformité juridique des textes est souvent perçu comme une boîte noire avec des retards et des blocages inexpliqués. L'influence politique semble également peser sur le traitement des textes. La controversée proposition de loi de Chani, rejetée une première fois, a été relancée en 2023 malgré un avis défavorable. De même, certaines lois adoptées, comme celle sur le barreau en 2018, disparaissent mystérieusement sans parvenir à l'étape de promulgation. Patient Ligaudy, Kinshasa, RFI.
L'Union africaine a salué, les États-Unis également. C'est donc indéniablement un coup favorable pour la diplomatie turque qui annonçait mercredi un accord entre l'Éthiopie et la Somalie. Après des discussions à Ankara, rapprochement amorcé entre les deux voisins à la suite d'une brouille exacerbée en janvier dernier par la signature d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, une province dont le pouvoir central somalien ne reconnaît pas l'indépendance et qui avait promis un accès à la façade maritime pour l'Éthiopie. Mais si les grandes lignes de l'accord conclu à Ankara sont connues, eh bien il reste manifestement de nombreux points à préciser selon la chercheuse Elisa Dominguez-Dos Santos. Je vous propose d'écouter son analyse.
La déclaration est assez évasive. Ce qu'on constate, c'est qu'il spécifie que les deux pays réaffirment le respect de la souveraineté de chacun. Donc c'est une déclaration qui laisse quand même peu de place à une éventuelle reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie, comme cela a été prévu dans le protocole d'accord signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland. Point vraiment de discorde, de ligne rouge pour la Somalie. Donc maintenant, il y a des négociations qui sont présentées comme techniques, qui vont être lancées en février. Il reste donc à suivre la négociation de ces accords bilatéraux, puis ensuite leur mise en place. Il convient de garder un point de surveillance en ce qui concerne l'attitude de l'Égypte, qui avait déclaré l'envoi de troupes sur le terrain en Somalie dans le cadre du renouvellement de la mission de l'Union africaine de maintien de la paix en Somalie en janvier prochain. Cette déclaration de l'Égypte, cet été, laissait craindre une forme d'instrumentalisation de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, de laquelle, qui plus est, les troupes éthiopiennes avaient été rejetées par la Somalie lors d'une déclaration cet été également.
L'analyse de la chercheuse Elisa Dominguez-Dos Santos. La BBC suspendu pour 3 mois au Niger. Nouveau média international sanctionné par la junte au pouvoir à Niamey. Selon un communiqué du ministère de la Communication, le média britannique est accusé d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes qui luttent contre les djihadistes. Pour rappel, RFI et France 24, nos médias restent suspendus également pour leur part dans le pays depuis août 2023. Le géant français Total Energy, visé par de nouvelles accusations en Ouganda. Graves atteintes aux droits humains, expulsions forcées, violences sexuelles, dégradation de l'environnement. Accusations portées par plusieurs ONG, dont la Fédération internationale des droits de l'homme et Oxfam. Elles concernent, ces accusations, les projets pétroliers dans lesquels Total Energy investit sur place, notamment le forage de Tilenga. Sacha Feyerabend est chercheur à la FIDH, écoutons-le.
Ces deux dernières années, on a eu une accélération des transformations et accélération notamment de la construction dans ces sites pétroliers qui a aussi amené une nouvelle vague d'impact, une nouvelle vague d'atteinte aux droits humains. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, les questions de droits fonciers, etc. sont largement encore d'actualité, malheureusement. Mais on a aussi des premiers impacts environnementaux qui sont ressentis. On a des atteinte aux droits des travailleurs aussi sur les sites de construction. On a aussi une situation de violation particulière aussi des droits des femmes qui sont confrontées à des problématiques spécifiques dans les communautés. Et le tout aussi dans un contexte d'intensification de la répression à l'encontre des défenseurs des droits humains, des défenseurs du climat et de l'environnement qui essayent de se faire entendre dans le cadre de ce projet-là et d'une fermeture aussi particulière et de plus en plus prononcée de l'espace civique.
Sacha Feyerabend, chercheur à la Fédération internationale des droits de l'homme, contacté par Pierre Firsion. À l'heure où la COP16 désertification vit ses dernières heures à Riyad, en Arabie Saoudite, on reviendra d'ailleurs sur les enjeux dans une petite demi-heure avec le dossier de la rédaction dans le journal de 8h. Mais d'ici là, la sécheresse, justement, et ses conséquences mises en lumière à Madagascar dans un film. Sous le gravier et les larmes, réalisation du malgache Deviramandi Bissoa. Il donne à voir le témoignage émouvant d'une femme qui lutte pour la survie de sa famille. Elle a dû abandonner la culture du riz afin d'aller casser des cailloux dans une carrière. Un film récompensé, justement, hier par le Grand Prix Hip Hop Plus 2024, dont les clubs de RFI sont partenaires, Elodie Papin.
Je m'appelle Fenovola. Toute cette poussière de pierre s'est installée dans ma poitrine.
Fenovola Nomenjazakwai raconte, face caméra, le manque d'argent, la pollution des explosifs qui dynamitent les rochers, les maladies et l'inquiétude pour l'avenir.
Cette carrière, c'est notre pain quotidien, mais elle ne suffit pas pour subvenir à tous nos besoins. L'énergie nous manque, le corps fatigue. Même si c'est difficile, nous devons continuer, car nous n'avons pas le choix.
Avant, elle cultivait du riz pour nourrir ses 3 fils et ses 4 petits-enfants.
À cette époque, les récoltes étaient abondantes, grâce aux pluies régulières et au sol fertile. Mais aujourd'hui, tout a changé.
Son histoire a ému le jury du Grand Prix Hip Hop Plus. Max Ball, chef du service RFI Planète Radio.
Ce film, il résume en 3 minutes la dureté de la vie à Madagascar face au réchauffement climatique et aux conséquences directes sur la qualité de vie. C'est un peu l'ADN d'hip-hop, c'est-à-dire la captation d'un témoignage et d'un ressenti pour essayer justement de nourrir la réflexion autrement qu'avec des chiffres.
Deviramandi Bissoa remporte avec ce prix une bourse de production de 3000 euros et un accompagnement pour l'écriture, la réalisation et la promotion d'un court-métrage.
Elodie Papin, Madagascar, où la compilation des résultats se poursuit après les élections municipales de mercredi. Mais vigilance, si certains candidats s'autoproclament déjà vainqueurs, eh bien, seule la commission électorale est compétente pour publier les résultats provisoires officiels de ces élections. Et ces résultats ne sont pas attendus avant le 24 décembre. Madagascar, la grande île, toujours, avec un autre dossier préoccupant. Les établissements pénitentiaires battent là-bas de tristes records. Une surpopulation qui dépasse les 250%. Un taux de malnutrition sévère de plus de 18%. Le cas le plus emblématique est probablement celui de la prison centrale d'Antanmora, à Antananarive. 5 fois plus de prisonniers que la capacité initiale. Alors, à l'occasion de la journée des droits de l'homme, des activités ont été organisées par un mécène privé toute la semaine pour égayer les journées des prisonniers. Tournois de foot, de basket, concours de talent, distribution de repas. C'est notre dossier ce matin. Notre correspondante Sarah Teto a pu assister, elle, à la finale d'un concours de chant masculin.
D'ordinaire, dans le quartier D, le plus surpeuplé, tout n'est que misère et déchéance. La faim tenaille, les prisonniers, les conditions d'hygiène y sont déplorables. À cela s'ajoute en ce moment une épidémie de gale, difficile à éradiquer tant l'eau, le savon et les médicaments manquent cruellement. Alors, quand les 6 finalistes du concours se mettent à chanter, les sourires émergent sur les visages. C'est finalement un homme de 28 ans, condamné à 7 ans de prison, qui est sacré grand vainqueur. Heureux, il remercie les organisateurs du concours pour la bouffée d'air frais et la visibilité donnée à la vie carcérale.
Ce que je demande, c'est qu'on nous regarde, qu'on pense à nous les prisonniers, parce qu'on n'est pas tous méchants, on souffre dans ce lieu. Ce qui m'importe le plus, c'est de sortir au plus vite, parce que je veux montrer au monde entier mon travail et le talent que Dieu m'a donné.
Bertin Ramamounzissou, le directeur régional de l'administration pénitentiaire, reconnaît que des besoins prioritaires comme l'espace, le nombre de surveillants ou de soignants peinent à être comblés.
Ce que je souhaite, c'est la collaboration tous azimuts avec tous ceux qui ont des idées et aussi d'aider non seulement l'administration mais surtout ces personnes privées de leurs droits pour qu'ils puissent un jour viendra retourner vers leur société respective.
En attendant leur retour en société, les détenus ont pu le temps d'une journée savourer la musique et fredonner des airs au goût de liberté. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et le mécène privé qui est à l'origine de ces activités, c'est Pierre Lachaud, un entrepreneur français déjà très impliqué au sein du milieu carcéral de son pays.
C'est montré que lors de la journée des droits de l'homme, eh ben, ce ne sont pas des animaux ces personnes, ce sont des hommes. Donc il faut les respecter. C'est le message que je veux leur faire passer.
Un message que vous leur faites passer à ces hommes-là, à ces prisonniers, mais aussi aux personnes qui nous gouvernent.
Exactement. Errare humanum est, hein, l'erreur est humaine. Il y a eu une erreur, ou peut-être pas. Il faut voir la prison, certes, comme une punition, mais aussi il faut la voir comme un outil de réinsertion. Et c'est ce que je veux vraiment leur faire comprendre. Les attentes de procès à Madagascar, c'est très long. Ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans. Les gens, ils peuvent ressortir du jour au lendemain en étant déclarés innocents, tout en ayant passé 5 ans de leur vie derrière les barbelés. Le système à Madagascar est fait comme ça. Regardez, on est dans une des plus grandes prisons d'Afrique. Hein. Il y a 5000 de détenus ici. Hein. C'est des cellules qui sont grandes de 60 mètres carrés où ils se trouvent à 100 à dormir. On est obligé de les réveiller toutes les heures pour pas qu'ils s'étouffent, pour les faire tourner. Les gardiens doivent regarder s'ils ne sont pas morts. Il y a un taux de mortalité qui est énorme ici. Pour se nourrir, ils ont droit qu'à une feuille de manioc par jour. Je veux que ce soit une journée qui les marque. Ah, c'est pas une goutte d'eau dans l'univers carcéral, c'est une goutte d'eau sur toute la planète. Ben peut-être la goutte d'eau, il y en aura peut-être qui pourront en prendre une petite lichette. C'est ce que je veux.
L'entrepreneur Pierre Lachaud, micro de Sarah Teto. Récompensé le mois dernier par le prestigieux prix littéraire Renaudot, l'artiste franco-rwandais Gaël Faye était hier à Kigali, au Mémorial National de Guy Sozi, lecture musicale de son roman Jacaranda, Lucie Mouillot.
Stella.
Debout sur scène, Gaël Faye lit les premiers mots de son roman, accompagné du guitariste Samuel Kamandi. Un moment que Tonia Marti et tout moi attendaient impatiemment, fiers de voir un livre sur l'histoire de son pays reconnu par le prix Renaudot.
C'est un peu comme s'il faisait ressortir la vérité et la réalité de ce qui s'est passé. Et ça, c'est important. C'est un livre émotionnel. T'as l'impression d'être à cette époque-là. Ça te donne un peu l'idée de ce qu'ils ont vécu, de ce qui s'est passé.
Dans ses lectures, Gaël Faye dépeint la reconstruction du pays post-génocide. Une description très juste de la ville de Kigali pour Robin Irois, touchée par les références au jacaranda, l'arbre qui a donné son nom au roman.
On le connaît dans les quartiers de Tiovu, dans les quartiers de Nyamirambo. Du coup, on est le grand fan de Faye, mais aussi de l'histoire qu'il parle. Et ça nous concerne en tant que Rwandais, en tant que des gens qui viennent de cette région de Grand Lac.
Lecture et slam de l'auteur-compositeur s'enchaînent sur la scène du mémorial chargé d'histoire de Guy Sozi, où Gaël Faye se produit pour la première fois.
C'est un moment particulier. Je me sens honoré d'être ici et je me dois d'être à la hauteur et du public et des centaines de milliers d'esprits qui peuple ce lieu.
Plus de 250 000 victimes du génocide reposent au mémorial de Guy Sozi, le plus grand du pays, où brûle chaque année, pendant les 100 jours de commémoration, la flamme du souvenir en hommage aux disparus. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Kigali, où il est 8h43, RFI Matin continue.